J'ai peur des regards, monsieur O. Celui de mes proches. Celui de mes fans. Celui des lecteurs de ces lignes. Je sais que je suis une victime, et pourtant j'ai honte. Pourquoi ai-je autant honte? J'ai beau me raisonner, j'ai honte. Vais-je tenir le coup face à tous ces regards qui, peut-être, me jugeront? Votre monde risque de se serrer les coudes. Vous êtes puissant dans le monde du patinage. Vous avez des relations, du pouvoir. J'ai peur que vous puissiez encore me faire du mal. Mon mari est hésitant. Il craint des répercussions. Il me dit « Tu ne devrais peut-être pas faire ce livre. Que vont-ils dire de toi et de moi ?» Le fait même d'être étiqueté, mari de celle qui a été violée, le dérange. Ma mère n'est pas enthousiaste non plus à l'idée de ce déballage. Que va-t-on penser de toi et de nous? Elle culpabilise tellement de ne pas avoir vu ce qui s'est passé. Elle qui était si proche de moi au quotidien. Elle a peur qu'on la juge, mauvaise mère. Ma tante de Fécamp s'interroge elle aussi. Sarah, as-tu pensé à ton entourage? Presque personne n'est au courant de cette histoire. Même ton propre frère ne le sait pas. Comment vas-tu faire? J'espère qu'on ne mettra pas ton nom si tu fais un livre. J'en ai froid dans le dos. C'est vrai, mon frère ne le sait pas. On s'est retrouvés récemment à Paris autour de notre père malade. Il est venu m'accueillir à l'aéroport avec ma mère, heureux de me voir, rieur, aimant. Je le regardais, je voulais lui raconter. Mais les mots ne sont pas sortis. Si peu de gens savent. Et même à eux, je n'ai jamais vraiment avoué ce qui s'est passé. Trop dégoûtant. Trop sale. À quoi ça sert de parler du passé? Pense à l'avenir, me supplie Stéphane, mon ex-partenaire de glace et ex-compagnon. Mais comment pourrais-je penser à l'avenir quand je sais que vous êtes resté pendant toutes ces années à la tête du club et de sa patinoire? Que vous avez été, que vous êtes potentiellement dangereux pour d'autres jeunes filles? Comment penser à l'avenir quand le passé me hante et que je n'arrive pas à vivre le présent? Car je ne vis pas, monsieur O. Je survis. Je devrais être heureuse. Je suis une partie de l'année au soleil dans une jolie petite maison avec piscine, avec mon mari et ma fille. Jean-Louis, vous l'avez croisé. Il s'est entraîné aussi dans votre patinoire. On s'est rencontrés quand il commençait sa carrière. Il avait 22 ans. Moi, j'étais au sommet de la mienne, multi-championne de France, vice-championne d'Europe et médaillée de bronze au championnat du monde. Depuis, je suis devenue coach en France et en Floride. À Paris, je partage mon appartement avec mes chers parents, sans qui je n'aurais jamais pu faire cette carrière. Vous les connaissez bien, mes parents. Ils vous respectaient beaucoup. À Miami, je suis installée avec mon mari dans une petite maison de zone pavillonnaire tranquille, à 15 minutes en voiture de la mer. On travaille comme des fous, sans prendre beaucoup de vacances. Mais la vie est si agréable ici. On respire, on a de l'espace. Le matin, dans le jardin, je prends le temps de donner à manger aux écureuils et aux oiseaux. Ils attendent que je siffle pour s'approcher. J'adore. Je devrais être heureuse, monsieur O. Mais je n'y arrive pas. Je suis une handicapée de la vie, murée dans l'angoisse. Dans ma tête, je suis une proie. À 15 ans, j'ai dormi en dehors de chez moi. J'ai été vulnérable. Et vous en avez profité. Aujourd'hui encore, dès que je sors de la maison, j'ai peur. J'ai horreur d'aller dans les lieux que je ne connais pas. L'inconnu est forcément synonyme de danger. Je ne peux pas voyager seule. Conduire une voiture sans quelqu'un à mes côtés m'a longtemps été impossible. Prendre l'avion est une torture. Lors de mes inévitables allers-retours entre Paris et Miami, le stress monte 8 jours avant le décollage. J'engueule tout le monde à la maison. Le jour J, même accompagnée, c'est très compliqué. J'ai mal au ventre. J'étouffe. En plus d'un anxiolytique, je porte toujours dans mes bras un de mes petits chiens Yorkshire. Les compagnies d'aviation acceptent leur présence à titre exceptionnel pour les personnes comme moi. Elles ont même un nom de code pour ces animaux à effet calmant. Emotional Dog. Ma névrose pèse sur mes proches, évidemment. On rêve d'aller en famille à New York, qui est à 3 heures de vol de Miami. Je reporte sans cesse. Une fois, Jean-Louis a gagné un voyage en Thaïlande. J'étais enceinte et ai prétexté de ne pas vouloir prendre de risques pour ma grossesse. Je l'ai laissé partir seul. Je me souviens de mon intense soulagement quand j'ai réussi à le convaincre d'y aller sans moi. Pour mes 40 ans, il m'avait offert un voyage à Las Vegas et avait réservé une chambre dans un hôtel qui proposait à ses clients de nager avec des dauphins. J'aurais adoré, mais c'était au-dessus de mes forces. Il a fallu annuler. Il me le reproche encore. Je le comprends. Il y a la peur de partir de chez moi, mais aussi celle d'être enfermée. Vous m'avez piégée dans des lieux clos. J'en ai développé une phobie. Dans une voiture, dans un appartement, j'ai besoin qu'on ouvre les fenêtres. L'idée même de mettre un pied dans un parking où vous m'avez tant de fois agressée génère une crise d'angoisse. Je ne supporte pas les ascenseurs. Je suis devenue claustrophobe. Ah oui, j'ai peur de la nuit aussi. C'est la nuit, quand j'étais en stage à La Roche-sur-Yon, que vous êtes venue la première fois me réveiller. C'est la nuit, bien souvent, que vous avez continué à abuser de moi quand nous étions en déplacement. Aujourd'hui encore, quand je dors seule, j'ai du mal à respirer. Je laisse mon téléphone allumé. Je garde mes Yorkshire avec moi sur le lit, nichés au-dessus de la tête. Ils me rassurent. Ils me protègent de mes fantômes. Ils me préviendraient si quelqu'un s'approchait. Personne ne m'a protégée quand vous vous êtes approchée. Je n'avais pas de chien à l'époque, que des peluches. Alors bien sûr, je me suis constituée au fil des ans une trousse à outils anti-angoisse. Antidépresseurs et anxiolytiques, Séroplex et Lexomil sont devenus mes fidèles compagnons de vie. Je les ai pris pour la première fois à 27 ans, quand tous les souvenirs sont revenus. Depuis, les médicaments et les souvenirs ne m'ont plus quittée. J'ai consulté des thérapeutes, des psychologues, des hypnotiseurs, des sophrologues. Lorsque des images ressurgissent de moi et de ces gestes dégoûtants, j'essaie, comme on me l'a appris, de plaquer des images positives. Je visualise souvent un grand lac avec un bateau au milieu. Je respire profondément, je m'allonge, je fais du yoga, je prends un bain, je mets de la musique. J'ai noté dans un grand cahier, à l'encre violette, des pages et des pages de conseils puisés dans « Le moine qui vendit sa Ferrari », le livre de Robin S. Sharma. Quand tu as une pensée négative, projette tout de suite une pensée opposée. On peut faire des miracles avec un esprit fort et discipliné. Ou bien tu contrôles ton esprit, ou bien c'est lui qui te contrôle. Je m'applique, Monsieur O. Vous insistiez beaucoup autrefois auprès de mes parents sur ma force de caractère. Et vous aviez raison. Je fais des progrès. Les angoisses ont diminué. J'ai grignoté des moments de répit. Depuis 2 ou 3 ans, je réussis à conduire ma voiture et à faire mes courses seule. J'arrive à pénétrer dans un centre commercial. Avant, je devais rester près de la porte de sortie. Je fais de mieux en mieux semblant. J'arbore mon sourire de patineuse, je maquille mon désarroi. Mais au fond de moi, Monsieur O, la petite fille continue de pleurer et d'avoir peur. Au fond de moi, je ne vis pas, je ne respire pas. Et cela est injuste. Pourquoi est-ce moi qui souffre à 44 ans, alors que vous, vous vivez tranquille dans votre patinoire? Est-ce que vous avez du mal à respirer, vous aussi? Quand je m'absente de Paris et que je reviens, je demande toujours à ma mère. Il est encore là? Et elle répond invariablement. Oui, il est toujours à la patinoire.